Gloire au Seigneur. On se propose d'étudier le livre des Actes ou bien de le réétudier pour certaines personnes. Et pour ce faire, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par la lecture de la parole de Dieu et à contenu pour aujourd'hui en acte 1er, verset 1er à 8, à la gloire du Seigneur. Et j'y lis pour vous. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'ailleurs, le Seigneur bénit sa parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes, mes frères et mes sœurs. Versets 1 et 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le premier livre dont il est question dans ce passage, quand l'auteur dit j'ai parlé dans mon premier livre, vous l'aurez compris, c'est l'évangile selon Saint Luc. Hein? L'évangile selon Saint Luc. C'est le premier livre dont il est question dans ce passage parce que ce passage, comme l'évangile selon Saint Luc, a été rédigé par Luc, l'évangéliste. Il a rédigé le livre des Actes des apôtres et il a rédigé l'évangile qui porte son nom dans la Bible, en l'occurrence l'évangile selon Saint Luc. Dans son premier livre au docteur Luc, c'est-à-dire l'évangile selon Saint Luc, Luc a parlé, s'est adressé à la même personne, en l'occurrence un certain Théophile. Hein? Voici ce que il a dit au chapitre premier de son premier livre, l'Évangile selon Saint-Luc. Voici ce qu'il a dit. Il m'a aussi semblé bon, je vous lis Luc chapitre 1, verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Hein? Dans les deux cas, dans les deux introductions, il y a un destinataire. En tout cas, un premier destinataire. C'est un certain Théophile ainsi connu. Dans les deux cas, Luc indique le but de sa rédaction. Il dit pourquoi il écrit. Qu'est-ce qu'il vise? Quel est son objectif d'écriture? Qu'est-ce qu'il veut faire? Hein? Alors, Luc va très loin. Il semble nous dire que le livre des Actes des apôtres dont il est l'auteur, est une suite de l'évangile selon Saint Luc. Quand vous mettez les deux introductions en parallèle, ça vous donne l'occasion de faire une synthèse, à savoir que Luc a rédigé dans sa tête à lui, sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, le docteur Luc a rédigé dans sa tête à lui, hein, un seul ouvrage en deux volumes. Un seul ouvrage en deux volumes. Les observateurs avisés ont même fait remarquer que le livre des Actes continue là où l'évangile selon Saint-Luc s'est arrêté. Et si vous lisez attentivement les deux textes, vous l'aurez remarqué vous-même. Voilà pour l'auteur. Et il y a quelque peu pour le but de ce livre extraordinaire, de ce bijou que Dieu, dans sa grâce, nous laisse dans sa parole pour nous encourager, pour nous former, pour nous instruire, pour nous transformer, mes frères et mes sœurs. Il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, c'est un médecin qui parle, un homme de Dieu compétent à tous égards. Donc la Bible n'est pas n'importe quoi. Il m'a semblé bon, la Bible a un aspect scientifique, historique là-dedans, pour ceux qui acceptent de comprendre cela. Après avoir fait des recherches exactes, ce n'est pas de la bouillie pour les chats. Un docteur, un homme de Dieu, un savant de son temps, que le Saint-Esprit de Dieu a saisi pour faire partie du royaume de Dieu et pour être de ceux qui allaient codifier la vérité de la parole de Dieu, un scientifique, ben il a fait des recherches exactes sur toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est ce qu'on est déjà eu. Et la naissance du Fils de Dieu, sa vie de sainteté parfaite, sa mort, sa résurrection, son ascension. C'est de ça qu'il est question. Et de tous ceux qui l'ont accompagné. Et de te les exposer. Hein? Bon, y a ce qu'on appelle ici, hein, y a, on perçoit la rigueur scientifique, la rigueur méthodologique dans ce qui est annoncé ici. C'est tout un programme. Hein, c'est tout un programme. Quand on parle d'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recherche. C'est comme quand quelqu'un prêche ou étudie la parole de Dieu. Il y a des gens qui pensent que c'est inspiré quand ce n'est pas préparé. C'est de la foutaise. Le Saint-Esprit peut fonctionner dans des ordres. Le Saint-Esprit peut donner la capacité à quelqu'un d'improviser, mais la plupart du temps, le Saint-Esprit prépare. Eh bien, on a un exemple ici. Quand nous disons que ces hommes-là ont écrit sous la dictée du Saint-Esprit de Dieu, oui, c'est le cas, mais ce n'est pas une dictée mécanique. J'en ai parlé dans la congrégation. Ce n'est pas une dictée mécanique. Le Saint-Esprit les dirige, les conduit dans les recherches scientifiques historiques, dans les témoignages à recueillir, à collecter, pour sélectionner sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu ce qu'il faut consigner par écrit. Voilà, il va prêter sous sa fête, nous prenons l'école biblique là, même des bon petit, des tout petit, de l'attirer attention sur des mondes qui ont dit la Bible, c'est n'importe quoi, c'est pour les mondes qui ne sont pas formés. Alors, on va comprendre que, demandez mon Dieu grâce pour ne pas donner le monde ça, il va comme ça dit. Refermons la parenthèse. Et pourquoi il y a un doctorat en théologie? Si la Bible, c'est n'importe quoi, pourquoi il y a un doctorat en théologie? Pourquoi il y a un post-doctorat en théologie? Pourquoi à Yale Université enseigner théologie? Pourquoi à Harvard Université enseigner théologie? Quand on dit théologie, c'est la Bible, c'est l'étude de la Bible. Si c'était n'importe quoi. Ou on n'a pas compris ça, l'a dit. Ou on m'a dit, bon Dieu, fais mon grâce. Gain pitié de mon nom. Là, elle dit, c'est pour mon tête mariée, la Bible faite, l'évangile faite. Ou on n'a pas compris ça, l'a dit. On a payé 120 000 dollars par année pour étudier théologie. 200 000 dollars, ça dépend de côté là, l'étudier, pour étudier cette graine Bible là. Et puis on a dit, Bible, c'est pour tête mariée, le fait. Ou on n'a pas compris rien. On raconte ça l'abdi. Pour ce qui est de Théophile, l'oratoire, peuple de l'oratoire, chers amis internautes, c'est un peu Jean-Well là. Personne ne connaît rien de Théophile avec détail, avec menu détail. Hein? Personne ne connaît rien de Théophile avec menu détail, ni aussi avec précision. Il est mentionné juste par son prénom. Bon. Certains pensent que Théophile serait un fonctionnaire romain, un fonctionnaire romain, hein? Un individu, un élément de la classe moyenne de Rome, employé de l'État dans le pays. C'est possible. Hein? Et il donne quelques raisons pour cela, sur lesquelles je ne veux pas m'attarder. Ça va être trop de détails pour vous. OK? D'autres hommes de Dieu, d'autres penseurs chrétiens, évangéliques, des hommes sérieux, pensent que Théophile, à qui s'adresse et qui est mentionné et dans l'introduction de Luc, et dans l'introduction des Actes des Apôtres par le docteur Luc lui-même, qui est l'auteur des deux textes, il y en a qui pensent qu'il est déjà conquis à la cause de l'Évangile. Ils pensent que Théophile est déjà un homme de Dieu, un chrétien, que Luc a pris sous ses ailes pour le former, hein? Un peu comme quand Paul a pris Timothée sous ses ailes. Il y a pas de certitude là-dessus non plus. Hein? D'autres pensent que Théophile, c'est quelqu'un que Luc tente de gagner à la cause chrétienne. Il est un païen. Et Luc tente de le convaincre de la véracité de l'évangile de grâce, de l'historicité de l'évangile. Il essaie de l'évangéliser, on va le dire comme ça, pour être plus simple. Là aussi, il n'y a pas de précision ou d'exactitude. Autrement dit, dans le jargon théologique, tout cela relève de la spéculation théologique. Ça existe. Le livre des Actes parle de la vie et du ministère terrestre de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le livre des Actes parle de la vie et du ministère de Jésus, notre Sauveur. Et comme le docteur Luc lui-même l'a dit, le livre des Actes, hein, se donne pour mandat, pour objectif de révéler, hein, Tout ce que Jésus a commencé, ce sont ces mots, c'est les mots de Luc lui-même. Hein. Tout ce que Jésus a commencé de faire, hein, et d'enseigner dès le commencement. Le commencement ici, ce n'est pas le commencement que nous trouvons dans Genèse. C'est depuis le commencement de son ministère. Hein. Depuis que Jésus a débuté officiellement son ministère terrestre. Le commencement ici, ce n'est pas l'origine ultime. Ce n'est pas l'origine des origines. Dès le commencement, hein, jusqu'au jour, hein, dès sa vie, jusqu'au jour où il fut enlevé. Dès le commencement de son ministère, jusqu'à son ascension, c'est-à-dire jusqu'à sa montée aux cieux, le Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour mission, s'est donné pour mandat. Hein? Ah là là. Quand il y a des gens qui parlent comme ça, là, vous savez ce que vous faites? On ne peut pas mettre ça sur la régie. Pas ça sur la régie, mais on ne peut pas mettre ça sur le site de l'Église. Alors on perd l'enregistrement. L'enregistrement devient inutile. Parce que nos frères, si la qualité n'est pas bonne, ils ne le mettent pas, puis c'est tout à fait correct. Excusez-moi, j'essaie de fermer et puis mon enchanté, tout le monde fermé, c'est lui qui a fermé. Quelle histoire. Voilà, ça y est. C'est peut-être trop tard pour la gestion audiovisuelle, mais au moins, ça y est. Alors, mes frères et mes sœurs, j'étais en train de vous dire, dès le commencement de son ministère terrestre, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a instruit ses disciples. Hein? Il a passé des années, il a passé des heures, des mois à les instruire tant par ses œuvres que par ses paroles. Hein? Il les a instruits par ses actions, par ses attitudes, par son comportement, par ses gestes, et il les a instruits par sa parole, dans la parole. Hein? Le Seigneur Jésus a fait connaître à ses disciples la vérité de la parole de Dieu dont ils auraient besoin pour être capables de poursuivre l'œuvre glorieuse, la sainte œuvre que Jésus avait commencée alors qu'il était avec eux, lorsqu'il viendrait le moment pour lui, à la fin de son ministère terrestre, de quitter la terre. Jésus nous fait remarquer, Luc enseignait ses disciples. Une des raisons pour lesquelles le Christ enseignait ses disciples, c'est parce qu'il était convaincu que ceux qui portent le message de Jésus-Christ, le message de la croix, ceux qui sont appelés à transmettre ce message au monde, eh bien, ils se devaient d'avoir une bonne connaissance de ce message. Et pour vous et moi, c'est la même chose. Lorsque nous avons une bonne compréhension des vérités de la parole de Dieu, des vérités évangéliques, des vérités chrétiennes, eh bien, il arrive par grâce que nous sommes en mesure d'exercer plus efficacement notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, notre vocation céleste. J'en ai déjà parlé quand je parlais de la croissance spirituelle. J'ai oublié de mentionner la croissance spirituelle dans les thèmes qu'on a déjà étudiés. Ce n'est pas sans raison, mes frères et mes sœurs, que l'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 1er, versets 16, 18, 19a, il dit ceci. En parlant des frères et sœurs d'Éphèse, je fais mention de vous dans mes prières afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Connaissance. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Connaissance. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Paul avait la même conviction que le Christ, à savoir que ceux qui sont appelés à vivre l'évangile ont besoin de connaître la vérité concernant l'évangile. Puisqu'ils ne sont pas seulement appelés à vivre l'évangile, mais ils sont aussi appelés à proclamer l'évangile. Donc, ils ont besoin d'avoir une bonne connaissance de cela. Si c'est vrai pour vous et moi, cela est d'autant plus vrai pour les saints apôtres, mes frères et mes sœurs. Aux Philippiens, chapitre 1, verset 9, verset 10, l'apôtre Paul va dire ceci. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Voilà, connaissance. Ceux qui sont appelés à vivre leur vocation céleste en Jésus-Christ ont besoin d'avoir de la connaissance. Et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, voyez-vous, l'efficacité de la vie chrétienne est irréprochable pour le jour de Christ. Alors, c'est sans surprise que le Christ, comme Luc l'indique, que Jésus a commencé à enseigner à ses disciples dès le commencement. Il les enseigne. Il savait qu'ils en avaient besoin. Eh bien, d'être instruit dans sa parole. On a une troisième référence qui nous montre à quel point la connaissance, l'étude biblique, l'école du dimanche, l'écoute de la prédication du haut de la chaire à l'Église est importante pour l'Église du Seigneur. On a une troisième occurrence de la part de Paul, cette fois-ci Colossiens 1er, verset 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, hein, il a fini de s'adresser aux frères et sœurs d'Éphèse, aux frères et sœurs de Philippe, et là, aux frères et sœurs de Colosse, il va dire à peu près la même chose. En tout cas, il va faire une affirmation qui montre à ses yeux l'importance d'avoir de la connaissance des choses de Dieu. Depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance. Gloire à Dieu, de sa volonté, hein, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? L'efficacité de la vocation céleste, dans l'exercice de la vocation céleste. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Voyez-vous? Voilà. Alors, Paul avait à cœur la connaissance du peuple de Dieu et le Christ lui-même avait à cœur la connaissance de son peuple, à commencer par ces 12 hommes qu'il a appelés à son service. Il a passé des jours à les former. Il a commencé à les former jusqu'à son ascension. Et même après sa résurrection de la croix, le Christ a continué d'enseigner à ses disciples les réalités du royaume de Dieu. Et cela, dit Luc, jusqu'au jour, c'est un travail interminable, un travail de longue haleine, un travail infatigable, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, c'est-à-dire jusqu'au jour de son ascension céleste. Hein? Le jour de son ascension céleste, c'est ce jour-là qui marque la fin ultime de son ministère terrestre dans le cadre de sa première venue sur la terre pour sauver le monde. Waouh! Hein? Il a travaillé fort longtemps. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Ah, un bon temps d'enseignement, au moins 3 ans et quelques mois. Jésus a donné, Luc signale aussi, il ne signale pas seulement que le Christ a enseigné ses disciples en donnant un intervalle de temps. Il signale aussi que Jésus a donné ses ordres aux saints apôtres par le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Cela signifie que le Saint-Esprit de Dieu était la source de la puissance et la source du ministère du Fils de Dieu. Hein? Il donnait ses ordres par le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Il remplissait son ministère par le Saint-Esprit. Il donnait ses ordres, il enseignait aussi hein, aux disciples par l'Esprit. Il donnait ses ordres, ses instructions, ses enseignements. Hein, ici, les ordres, c'est ça, hein, c'est ses instructions, hein, les consignes qu'il fallait, les consignes apostoliques et les consignes générales. Hein. Il donnait ses instructions, ses enseignements, ses consignes hein, par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est la source du ministère de Jésus. Le Saint-Esprit est la puissance du ministère de Jésus. Hein? Le ministère que Jésus a accompli, c'était un ministère accompli dans la puissance de l'Esprit. Et pour vous et moi, c'est un exemple à suivre. À l'instar du Fils de Dieu, à l'instar de Jésus-Christ, le Messie, le Saint-Esprit de Dieu est la source de ton ministère. Il est la source de l'exercice de ta vocation céleste. Et en même temps, il est la puissance de l'exercice de ta vocation ministérielle ou de chrétien tout court. Hein? Chaque chrétien a besoin, comme le Fils de Dieu, d'obéir aux ordres, aux instructions, aux consignes, aux enseignements de Jésus-Christ. Hein? Il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces en général, mais sous cet angle en particulier. Hein? Il donnait ses ordres par l'Esprit, c'est-à-dire il œuvrait hein, par l'Esprit. Alors, comme lui, sommes appelés à œuvrer par l'Esprit. Nous le savons, vous et moi, Jésus n'a pas enseigné seulement ses disciples. Hein? On parlait de la foule. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, il les enseigna et dit, alors, vous le savez, hein, comme votre pasteur, le Fils de Dieu n'a pas eu que les saints apôtres, que les 12 hommes qu'il avait choisis à instruire, à enseigner. Hein? Il enseigna à des foules, à des foules immenses, des foules très, très compactes, très volumineuses. Quand il dit, qu'est-ce qu'on va donner à la foule à manger? Il s'adresse à Philippe. Mais c'était une foule qu'il venait d'enseigner aussi. Hein? Mais cela dit, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, cela dit, ses vrais élèves, hein, on va dire, ses principaux élèves, ses élèves particuliers, hein, c'était les saints apôtres, c'était ces 12 hommes-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il leur a dit qu'il n'a pas dit à d'autres mondes. Hein. Et c'est normal aussi, parce ils auraient une plus grande part de ministère après. C'est normal, c'est sans surprise. Ses principaux élèves étaient les apôtres qu'il avait choisis, les 12 hommes qu'il avait fait, dont il avait fait sa garde rapprochée. Hein, l'état-major ou le quartier général et, de son ministère, ok? Et un l'un des objectifs majeurs de cet enseignement-là, ben, c'était de les préparer pour ce ministère spécial dont je vous ai déjà parlé. Hein? Un ministère spécial dont je vous ai déjà parlé quand on étudiait le thème de l'Église. Hein? C'est pourquoi ce n'était pas par parti pris que ces gens-là étaient ses principaux disciples, ses principaux élèves, au-delà même de la foule qui l'écoutait plus souvent qu'autrement. Hein? C'est parce que ces hommes, comme je l'ai dit, avaient un mandat. Il avait un mandat pour ces hommes-là qui n'était pas donné aux autres. Hein? C'était des hommes assez spéciaux de par leur vocation. Hein? Le ministère apostolique, c'était un ministère exigeant. Ça, il avait besoin de connaissances, il avait besoin de conviction, il avait besoin de courage, il avait besoin de discernement. Voilà pourquoi, eh bien, ces hommes-là faisaient l'objet d'un enseignement très, très rapproché, très, très précis, très, très spécial de la part du Seigneur. C'est lui qui a sauvé ces gens-là, c'est lui qui les a appelés, bon, c'est lui qui les a sauvés, c'est lui qui les a mandatés pour le Saint-Service, c'est lui qui les a préparés, c'est lui qui leur a donné les dons nécessaires pour exercer le ministère apostolique. Alors, leur dispenser un enseignement, c'était la chose la plus normale qu'il fallait faire. Et voilà, c'est ce que le Fils de Dieu a fait. Et quand j'enseignais l'Église, la thématique de l'Église, j'avais attiré votre attention sur la nature du mandat qu'avaient les saints apôtres. Hein? Le mandat, c'était d'établir, hein, le message que moi-même avec tout à le suivre. Ça que tu appelles l'évangile, c'est opter pour codifier, traiter, colliger. Alors, au sortant de l'autre là, tu as l'air à qui dire, au sortant de l'autre là, tu as l'air à qui dire, docteur Luc, j'ai fait des recherches exactes. Je les expose par écrit, minutieusement, scrupuleusement. Ça, c'est moi qui rajoute ça. Alors, mais voilà, il le faisait dans le cadre du mandat qu'il avait reçu du Saint-Père, de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et Paul va s'exprimer d'une autre manière, mais c'est même Soeldo-là, c'est lui Paul fait, en sa qualité d'apôtre, lui aussi. Pas apôtre de second ordre, mais apôtre qui n'a pas vu le Christ, qui n'a pas vécu avec le Christ, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans la congrégation. Soeldo-là, c'est lui Pierre fait, c'est dans ses objectifs. C'est même objectif que Pierre gagne, les Pierre avec lui. C'est lui Jean fait. Chaque monde a une façon pour exprimer, mais Soeldo-là, c'est lui Pierre fait. C'est lui Paul fait, c'est lui et Jacques fait, c'est lui, ainsi de suite, voyez-vous. C'était justement ça leur mandat. C'est ça leur mission. Colliger la parole. Établir la doctrine. Mais pas de leur même, pas de même. Le Christ a établi sa doctrine déjà. Il a fallu qu'il s'occupe de transmettre la doctrine. Comme ils l'ont entendu de la bouche du Seigneur. Alors qu'il leur enseignait justement. Comme Luc est en train de le dire. C'est tout simplement ça. C'était eux qui étaient choisis pour transmettre sa parole de siècle en siècle. D'année en année, de mois en mois. Fini, pas de l'autre. Gloire à Dieu. Et au verset 3, la parole de Dieu dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Les saints apôtres, c'étaient des hommes comme vous et moi. Ils avaient besoin de la connaissance pour s'acquitter de leur mandat apostolique, dont je viens de vous relater les grandes lignes. En tout cas, dont je viens de vous parler en gros, de manière sommaire. Ils avaient besoin de la connaissance. J'ai établi, j'ai expliqué à la lumière de ce que le docteur Luc nous a dit, j'ai dit pourquoi, moi, j'ai dit pour qui ça, j'ai besoin d'une connaissance. Le Christ avait compris qu'ils avaient besoin de connaissance, alors il leur en donna, il bailla aux connaissances. Mais il y a besoin de l'autre bagaille encore. Pas seulement connaissance. J'ai besoin d'assurance. J'ai besoin d'assurance qui défiait tout pour être capable de proclamer ce message. Même devant la mort, on en a parlé quand j'étudiais l'Église. Ils avaient besoin d'assurance pour proclamer ce message. Frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ, il n'est pas facile pour les disciples, pour les saints apôtres, de proclamer ce message avec toutes les menaces, de les martyriser, de leur couper la tête, de bastonnades qui pesaient sur leur tête. Et vous n'êtes pas capable de faire travailler ça si vous ne connaissez que le Seigneur est vivant. On en a parlé, hein. On a étudié Jean 13 à 17 avec vous. On a parlé des martyrs. On en a parlé, hein. Vous n'êtes pas capable de joindre courage, force, détermination, enthousiasme, chaleur, ardeur, envie, passion pour proclamer message ça. Si vous n'avez pas la conviction que le Christ mort était bien ressuscité et bien vivant, vous n'êtes pas capable de proclamer message ça si vous ne connaissez pas, eh bien, l'empereur n'a pas mouru. Parce que le chef du royaume, lui, est ressuscité. Les promesses du royaume, concernant le royaume, ne pas mourir. Ces promesses n'étaient pas mortes. Parce que le chef du royaume, celui en qui le royaume était venu, est venu et sera venu, est vivant. Il va être capable de proclamer message ça. Et le Seigneur Jésus était bien conscient de cela. Il est Dieu, de toute façon. Il en était bien conscient. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il voulait leur donner cette assurance. Et voilà pourquoi Luc dit, après qu'il comment il leur donnait cette assurance-là. Pourquoi le Christ ressuscité par le faire outil? Il va monter aux cieux. Déjà, ils l'ont abandonné. Celle de toi, sœur, de toi, servante du Seigneur. Tant que je dis à l'Église, de toi, femme de Dieu, pour dire qu'à marcher bord ton blanc. Toute journée, tout dimanche, chap, chache, chap, chache, chap, chache. Tout n'est qu'à le faire ou tout le monde courir. Qui te dit apôtre, qui te dit homme choisi, tout à le faire ou pourquoi le Christ, après sa résurrection, pas monter à le faire ou à jeune papa, dans le ciel là. Il a été abandonné par tous, à part quelques servantes du Seigneur. Pourquoi? Mais justement, c'est parce qu'il savait que, même moi-même avec aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de connaître que des gens qui l'ont vu, ressuscité et vivant. Gloire à Dieu. Il leur apparut vivant et leur donna, tenez-vous bien l'oratoire, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves. Gloire à notre Dieu. Plusieurs preuves. Pourquoi? Mais il en avait besoin. Il voulait couper court à toute tendance à dire qu'il n'était pas vraiment ressuscité. Il voulait s'assurer que ses proches, que ces hommes qu'il avait choisis pour codifier l'évangile de grâce, la parole, le message en tout cas, eh bien, il voulait s'assurer qu'ils le voyaient à profusion. Yoel compte yo. Hein? Yoel plusieurs fois. Okay? Il va passer toute 40 jours avec eux, non? Il va passer toutes 40 jours avec eux. Il fait des apparitions pendant ces 40 jours-là. Il va passer 40 jours suivis avec eux. Ça aurait pu être ça, mais c'est parce qu'il a choisi. C'est parce qu'il lui a plu de faire. C'est parce qu'il a plu au Père, au Fils et au Saint-Esprit de faire. Mais, qu'à cela ne tienne, il le voyait à plusieurs occasions. Gloire à notre Dieu. Lorsqu'il est entré dans la pièce où il était enfermé, Jean 20, verset 19, ils l'ont vu. Ils ont vu les plaies de sa crucifixion. Gloire à notre Dieu. Luc 24, verset 39. Ils l'ont vu boire et manger. Luc 24, verset 41 à 43. Gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Pendant 40 jours. 40 jours commence par le jour de la résurrection. Hein? Ils l'ont vu pendant 40 jours à partir, eh bien, du jour de la résurrection et jusqu'à son ascension. Il a passé 40 jours et, sur terre. Gloire à notre Dieu. Et durant cet intervalle, dis-je, il a eu à faire plusieurs apparitions. Alors, je répète, ces apparitions avaient pour but, ces apparitions du Seigneur après sa résurrection, je répète, là, je riais un peu là, mais je veux être plus précis, ces apparitions avaient pour objectif de les convaincre, de les rassurer du fait qu'il était, lui qui était mort, est bel et bien vivant selon qu'il leur avait annoncé dès avant sa mort. Bien avant sa mort. Hein, ce qu'il avait dit est arrivé. Hein. Et le fait qu'il est apparu à ses disciples à plusieurs reprises durant ces 40 jours, eh bien, pour les convaincre, pour les rassurer, mais cela a porté résultat, cela a porté fruit. Hein. Ils étaient effectivement rassurés, ils étaient galvanisés, ils étaient encouragés, et puis ils étaient vraiment et motivés à porter le message de l'évangile, eh bien, de la mort et de la crucifixion du Christ partout, effectivement, à commencer par Jérusalem, et cela envers et contre tous. C'est-à-dire, malgré les menaces dont on a parlé tout à l'heure, malgré à tout ce que les mauvais hommes voulaient leur faire, étant donné qu'ils étaient accrochés à ce message-là, ils n'ont pas reculé. Donc, le Christ ne pouvait pas manquer son coup. Il savait qu'il avait besoin de le voir pour avoir de l'assurance, pour prendre de l'assurance. Ouais, ben voilà, c'est arrivé, il l'a fait et c'est arrivé. Ces hommes-là étaient prêts à donner leur vie. On a vu ensemble cela. On l'a vu ensemble. Ils étaient prêts à donner leur vie pour proclamer ce message-là. Hein? Ils l'ont vu. Ils l'ont vu le Christ ressuscité alors. Et voilà, chose dite, chose faite. Donc, ils ne sont plus sceptiques, ils ne sont plus douteux. Hein? Ils ne sont plus tremblants après avoir vu le Seigneur leur apparaître à plusieurs reprises. Ils n'étaient plus craintifs, ils n'étaient plus tremblants, ils n'étaient plus sceptiques parce que les apparitions étaient quand même très répétées. Hein? Ce n'est pas une apparition, c'est des apparitions. Si c'était une fois, quelqu'un dirait, mais est-ce que c'était lui bien? C'était bien lui ou? Est-ce que je rêve? Est-ce que... Non, c'est plusieurs fois finalement. Ben, ils en étaient convaincus. Je vous dis, Dieu sait ce qu'il fait. Hein? Même dans les moindres choses, même dans les petits détails de la vie, mais ses choix sont toujours les meilleurs. Et alors voilà, ce qu'il s'est proposé de faire a porté fruit. Ces hommes étaient galvanisés et prêts à prêcher l'évangile, eh bien même au péril, au prix même de leur vie. Gloire à notre Dieu, frères et sœurs. 57. Alors je m'arrête ici. Je vais me rappeler qu'on est arrivé à peu près au verset 3. Et je veux m'arrêter ici, vous donner l'occasion de poser des questions, si vous en avez. Il est vrai qu'on n'est pas encore entré dans la matière, mais voilà, laisse-moi arrêter l'enregistrement pour vous laisser parler.